de 825 000 personnes dans la rue. Les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios. That boy you call is a diamond fella. All you little boys are a comedy of errors. You better let your fellows get tamed like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. And you, what are you gonna do? Little boys get tamed like the shoe. You're midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're Monarch, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me, the merchant of...
Bonsoir.
Un magnifique départ en fanfare pour ce Canu Info. Il est 19h passé de 4 minutes. Vous êtes bien, eh oui, sur Radio Canu.
Avec ce soir, nous allons commencer par de l'actu en bref. Accord de paix entre le Hamas et l'OLP. Le progrès, notre fierté locale. Et puis un militant shooté au visage par un flashball à Toulouse. Des émeutes au Brésil. Des écologistes radicaux qui ciblent Valls.
Il y aura ensuite une chronique numérique suivie de la rubrique Faut que ça sache et d'un petit agenda.
Et voilà. Ouh, il est déjà 19h ça.
Bon, bah on va commencer par notre actu en bref et on va commencer par avec notre très cher ministre Arnaud Montebourg qui vient de remettre la Légion d'honneur à Jean-Claude Bourrelier. Ah, vous savez pas qui c'est Jean-Claude Bourrelier, hein ? Je savais. Et ben, ce gars, en fait, c'est juste le patron national, donc le patron au niveau national de Bricorama. Vous voyez cette enseigne et du coup ce patron qui réclame l'autorisation du travail le dimanche parce que lui il est pas content, ses boutiques sont obligées de fermer et tout. On lui avait déjà proposé la Légion d'honneur il y a quelques mois mais il avait refusé parce qu'il n'avait pas le droit d'ouvrir ses magasins le dimanche. Aujourd'hui, bon bah il a toujours pas le droit mais on imagine que s'il a accepté de la recevoir cette fois-ci c'est parce que Arnaud Montebourg lui a glissé dans l'oreille « T'inquiète pas, cette fois-ci c'est la bonne ». Alors, on va pas aller dans la Sarthe où ils ont fait péter la banque. Et c'est pas une image, des braqueurs ont littéralement soufflé une agence de la caisse d'épargne pour leur choper leur distributeur automatique de billets. Ensuite, une fois qu'ils ont réussi à le déceler du mur qui n'existait du coup plus, ils ont mis le distributeur sur le toit de leur voiture, se sont barrés. La police a retrouvé le distributeur automatique de billets à quelques dizaines de kilomètres, mais ils l'ont retrouvé vide cette fois-ci. Et du côté de la Suisse, on peut vous dire qu'ils n'auront pas besoin de braquer des distributeurs automatiques de billets parce qu'il va y avoir un référendum pour la création d'un SMIC. C'est pas mal, hein, mais ça n'existait pas. Mais attention, vous savez à combien il va être le SMIC en Suisse? 3 240 €.
Eh oui.
Rien que ça. Eh oui. Ouais, c'est le SMIC le plus. Enfin, si c'est voté, en tout cas, ce sera le SMIC le plus élevé du monde.
En même temps, quand on voit le prix de la Mentalo là-bas, bon, c'est quand même pas complètement aberrant.
C'est ça. Par exemple, pour une petite comparaison, le salaire moyen d'un fonctionnaire est de 7 275 €. Ouais, je vous vois tous avec vos grands yeux là-bas, vous vous dites ah putain on a qu'à aller se barrer en Suisse et tout machin. Bah non, parce que je vous rappelle quand même qu'ils ont voté un truc qui fait que maintenant on n'a plus trop le droit d'aller dans leur pays. Et pour l'instant ils sont 9% à être en dessous des 3 240 € par mois. Donc voilà, bon bah on le répète, hein, le bon plan c'est de surtout pas s'installer en Suisse parce que la vie est ultra chère, donc les pauvres là-bas ils crèvent quand même. Mais de se mettre un tout petit peu à la frontière et de faire des allers-retours.
pauper. Wish to your classroom, speak eloquent. Though I am resident to the gritty in a city that's surely irrelevant. Call it urban, call it street, or rose by any other name.
Eh ben, qui dit Suisse dit paix, non notre... Bon, bref.
Qui dit Suisse dit paix, qui dit paix dit Palestine. Non, ça marche pas comme transition,
si,
ça.
Non, non, mais si. Qui dit paix dit Palestine aujourd'hui. C'est exceptionnel.
Ça, c'est un vrai scoop.
Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est là, là, il s'agit d'une réconciliation entre l'OLP et le Hamas. Réconciliation signée et annoncée aujourd'hui. Les Israéliens sont verts de rage, comme on peut l'imaginer. Alors, au terme de cet accord, l'OLP, qui est donc reconnu internationalement comme le seul représentant du peuple palestinien, et le mouvement islamiste, le Hamas, qui est au pouvoir à Gaza, ont convenu de former un gouvernement de consensus national dans les prochaines semaines. C'est-à-dire qu'ils se sont donné 5 semaines pour faire ça. Ce gouvernement, qui sera toujours dirigé par le président Mahmoud Abbas, donc OLP, et qui sera composé de personnalités indépendantes, ça sera constitué d'ici 5 semaines.
C'est-à-dire que les membres du gouvernement seront ni de l'OLP ni du Hamas ?
Ouais, en fait, ça va être un gouvernement de techniciens, comme il dit, de technocrates. Ouais. Peut-être qu'il y en aura un peu de l'OMP, un peu, de l'OLP, un peu du Hamas, mais ils ne seront pas là pour faire de la politique. Ils seront là, en réalité, ils seront là pour mettre en place des élections qui permettront peut-être d'avoir un gouvernement avec une forme de légitimité en Palestine. Ce qui, pour l'instant, est un peu compliqué. Je vais y revenir dans 2 minutes. Allez, 40 secondes. Une fois que le communiqué a été lu, donc il a bien été lu à Gaza, par le chef du gouvernement du Hamas, donc Ismaïl Haniyeh, en présence d'une délégation de l'OLP qui est à Gaza depuis hier soir pour peaufiner l'accord et l'annoncer. Aussitôt, des scènes de liesse populaire ont éclaté dans toute la bande de Gaza. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de la ville de Gaza et puis dans d'autres agglomérations, dans les camps de réfugiés, en criant le slogan « Unité palestinienne ». Et oui, non, bah ça j'ai déjà dit du coup. Alors pour rappel, les embrouilles entre le Hamas et l'OLP, ça a commencé en 2006, au moment où le Hamas a gagné les élections législatives. À ce moment-là, la communauté internationale, comme un seul homme, avait considéré que les Palestiniens s'étaient trompés en votant, que le Hamas pouvait pas être légitime, mais bon, parce qu'il n'avait pas été élu démocratiquement, mais parce que c'était des islamistes. Il faut quand même savoir qu'à ce moment-là, et enfin, de toute façon, la société palestinienne, dans les sociétés arabes, c'est vraiment une des sociétés les moins religieuses, les plus qui en a rien à foutre de ce truc de religion, et que s'ils avaient voté pour le Hamas, c'était pas tant par amour de la charia ou de choses comme ça, là, c'était parce que les gens voulaient voter contre l'OLP. Le Hamas, à ce moment-là, était le seul parti crédible d'opposition à l'OLP. Et l'OLP, en tout cas à ce moment de son histoire, était du coup au gouvernement de l'autorité palestinienne, était hyper corrompu, passait son temps à faire des concessions à Israël. Et les gens, ils voulaient faire dégager l'OLP. Donc, vote, élection, enfin le Hamas remporte les élections. Et la communauté internationale dit quoi, c'est pas possible. Et l'OLP, s'appuyant sur les réactions internationales, avait à ce moment-là refusé de lâcher le pouvoir. Bon, moyennant quoi, il y avait eu des affrontements, les gens ils s'étaient tirés dessus un peu à travers la Palestine, et en particulier dans la bande de Gaza. Et à la fin, globalement, l'OLP avait conservé le pouvoir, sauf dans la bande de Gaza, où c'est le Hamas qui était resté maître du terrain. Depuis cette date, il n'y a plus d'élections en Palestine. Alors on referme la parenthèse cet après-midi. Pas très longtemps après l'annonce de l'accord et les manifestations de joie, l'aviation israélienne a effectué une frappe au nord de Gaza, pour quand même bien montrer qu'il ne fallait pas les oublier. Ils ont blessé 6 personnes, dont une très grièvement. Alors eux, ils ont fait un petit communiqué en disant qu'ils avaient conduit une opération de contre-terrorisme, mais que bon, ils s'étaient plantés, en tout cas ils avaient manqué leur cible.
Ils ont l'habitude, ça.
Donc, c'est ça reste un peu du quotidien, mais là ça avait un petit goût de provocation... En plus, quoi. Léger, hein, parce que... Alors, Netanyahou a accusé tout à l'heure les Palestiniens de saboter le processus de paix. Ce qu'il voulait dire par là, c'était de se réconcilier entre eux.
Qu'on soit bien... Ouais, j'imagine qu'ils étaient bien contents de cette scission.
Ben oui, ben évidemment. Et donc, Netanyahou, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, au lieu de choisir la paix avec Israël, Abou Mazen, c'est Mahmoud Abbas, donc l'OLP, au lieu de choisir la paix avec Israël, Abou Mazen opte pour la paix avec le Hamas. Et voilà, et dans les phrases qui suivent, il souligne bien qu'il faut choisir, quoi. C'est pas, y a pas moyen de négocier avec Israël si on n'est pas en guerre avec le Hamas. D'ailleurs, ces négociations, elles en sont où ? Eh bien, elles en sont nulle part. Les Américains font des efforts désespérés pour essayer de réunir tout le monde. Mais là, un dernier petit truc qui s'était passé là, c'est que du coup, il y avait eu un accord, enfin bon, un désaccord un peu de en route, quoi. Où entre autres Israël aurait dû libérer un petit pack de prisonniers, c'est le 29 mars dernier, et finalement le 29 mars ils ont dit non, en fait il faudrait qu'on négocie encore un peu avant de les libérer. Bon, moyennant quoi, les Palestiniens ils ont dit non mais allez vous faire foutre, et après le président Hamas a dit qu'il était disposé à prolonger les discussions même au-delà du 29 mars, même mais à condition que Israël d'une part relâche les prisonniers, d'autre part gèle la colonisation, et d'autre part accepte de discuter réellement de la délimitation des frontières du futur État palestinien. Le gouvernement israélien a rejeté ces demandes.
Alors, vous avez très certainement entendu parler de la polémique autour de l'article du Progrès qui produit une étude très très poussée sur la délinquance et qui nous trie tout ça suivant les spécialités et les nationalités de chaque protagoniste. Alors pour ça, ils ont pris comme source le CIRASCO. Alors, père et moi, je connaissais pas. C'est le service d'information, de renseignement, d'analyse stratégique sur la criminalité organisée. Bon, c'est un espèce d'outil policier un peu. Et surtout, ils se basent sur le témoignage de flics de terrain. Ils ont appelé ça les tendances basées sur leurs observations. Et justifient ce deuxième choix car ils précisent qu'en France, les statistiques sur les nationalités sont interdites. Bon, alors ça, c'est faux. Ce qui est interdit, c'est les statistiques sur les origines supposées ou sur l'appartenance à une origine ethnique supposée également. Bref, tout ça a fait un méga scandale à l'échelle nationale et la rédaction du Progrès était plutôt surprise puisque bon, quand même, quand on connaît le journal, on sait que c'est quand même pas leur première fois. Ce qui a le plus choqué un peu la presse, c'est une petite infographie en marge de l'article qui classe les types de délinquance qui les classe par délinquance, et à côté où ils mettent la nationalité des gens. En gros, ça donne à la case cambriolage, nous avons Georgiens, Albanais, Roms, gens du voyage, locaux, entre parenthèses pour préciser les locaux, groupe des cités, toxicomanes, autres.
Voilà. C'est-à-dire que ça mêle aussi des catégories qui relèvent de systèmes de catégorisation différentes comme Albanais ou Géorgiens qui sont effectivement des nationalités, et Roms ou gens du voyage qui sont autre chose.
Oui, ni groupe de cités ou toxicomanes d'ailleurs.
C'est ça.
D'accord. Et autres, on ne sait pas trop ce que c'est. Ou alors nous avons prostitution, alors là le Progrès féminise son article. Nous avons africaine, roumaine, bulgare, albanaise, rome, russe, ukrainienne. Bon, on rappelle quand même la prostitution n'est pas un délit hein, en France.
Les roms par hasard se retrouveraient dans toutes les
bon, ça oui, effectivement, sauf pour les braquages ou les trucs comme ça. Alors voilà, c'est surtout cette infographie que les journalistes ont relevé, mais du coup c'est pas tant le contenu de l'article, un peu comme si au final le plus critiquable c'était juste la forme mais pas tant le fond. Peu de journalistes ont aussi relevé que le fait de parler de Roms ne faisait donc pas référence à une nationalité et que sur le plan de loi ceci était effectivement interdit. Bon, ça en même temps ils allaient pas enfoncer leurs collègues parce que ça c'est quand même un truc qu'ils font de manière systématique. Et quand même, nous avons un petit palmarès du traitement journalistique de cette affaire. Alors, nous avons quand même Le Point, qui titrait jusqu'à hier, parce qu'ils ont changé leur titre entre-temps. Le Progrès veut-il vendre du papier à tout prix ? Bon, alors, quand même ça, venant de la part du Point, on les mélange tous, ça nous fait quand même doucement sourire, surtout quand on connaît leur une choc, comme par exemple « Cet islam sans gêne »,« La chasse aux chrétiens »,« Histoire d'un fou d'Allah français », les nouveaux réseaux du crime. Bon, si eux, ils sont pas prêts à vendre du papier pour n'importe quoi, on se demande bien ce qu'ils font. Ensuite, on a le Figaro, bon, qui lui s'interroge, existe-t-il un lien entre nationalité et crime ? Lui plutôt... juste, ils disent, bon, une fois que la question elle est posée, autant y répondre. Hein. Et ensuite, on a le site Internet Atlantico. Alors, vous en avez sûrement entendu parler, c'est ce site c'est vraiment une grosse merde. Hein. C'est un site Internet de droite. C'est lui qui avait révélé les écoutes de Patrick Buisson, là. Qui... celui qui avait balancé et tout machin. Mais c'est vraiment des ordures. Et qui lui se range du côté du progrès, comme toute bonne ordure se ressemble, en titrant délinquance par nationalité contre la chasse aux, aux stigmatisations masque mal un déni de réalité. Alors pour ceux qui n'ont pas bien compris ce titre, hein, j'en faisais partie, il nous explique que cette infographie, là je cite, provoque la polémique, alors qu'il met pourtant en lumière un véritable tabou politique.
Eh oui, bien entendu.
Et voilà.
Ah oui, c'est tabou de dire qu'il y a une délinquance rome, on n'entend jamais ça.
En fait, avec des espèces de droits de l'hommistes comme vous là, ben ça fait qu'on peut pas parler des vraies choses là.
Toi, tu cherches la merde.
Vous mettez des tabous sur vous mettez des tabous comme ça sur les choses. Alors tout ça pour empêcher que les Français puissent voir la vérité.
Et on empêche tous les, je veux dire nous droits de l'hommiste de Radio Cap.
Oui, c'est ça.
On empêche de s'exprimer tous les présentateurs de TF1.
C'est vrai,
les journalistes.
Quel mal on fait à ce monde.
Ah ouais, non, mais je vous promets. En fait, on se rend pas compte, mais Radio Cap, on est quand même à fond dans le sens du système, quoi. Dans tout ça, quand même, seul Métro, mine de rien, quand même, on n'en fait pas souvent des compliments, se pose la question de, comme à l'intérieur là, de l'article, ils disent qu'ils sont allés chercher leur truc auprès des leur renseignement auprès des flics. Métro, ils se posent la question de, à par rapport au Rome, s'il existe une fiche, un fichage Rome. Vu que les flics disent, ah bah oui, machin. Et il y avait déjà eu un système de fichage, dans la police nationale et à propos des Roms qui avait été révélé, parce que jusqu'à présent il posait pas de problème, il avait été révélé il y a quelques années et du coup il avait été annulé, donc là eux ils posent juste la question de est-ce que ça continuerait pas. Moi je pense qu'on peut dire que si, a priori. Bon, alors tout ça quand même pour dire que cette fois-ci le progrès est allé un tout petit peu plus loin que d'habitude, mais que toute l'année quand même il nous écrit un vrai torchon sur les Roms, notamment avec des articles du genre après l'évacuation du campement, les Roms laissent place aux rats, ou alors Lyon, des femmes roms se livrent à un trafic agressif de tickets de métro. Donc ça, c'est l'article qu'on peut lire toute l'année, hein, sur le progrès quand même. Et ça n'a pas empêché non plus le syndicat de journalistes, le SNJ, qui est majoritaire au progrès, de dire également que là, vraiment, non, ce n'est plus possible. Bon, alors à eux, on a un peu envie de leur dire qu'ils sont passés à côté de tout un tas d'articles sans réagir. Et que bon, ils ont bien beau de dénoncer la course aux clics et aux faits divers qui sont au programme, mais c'est quand même un des journalistes qui a écrit, alors je sais pas s'il est au SNJ ou pas, mais bon, c'est quand même un des leurs qui a écrit cet article, et qui c'est quand même eux qui en ont écrit tout un tas d'autres bien aussi crades. Alors bon, on a quand même juste envie de leur donner un conseil, changer de journal.
Et on va à Toulouse maintenant, où un militant s'est fait shooter au visage par un flashball, et plus précisément, bien entendu, par un flic. C'était le lundi 21 avril, c'était le jour de l'officialisation de deux maisons de la CREA, dans le but d'héberger des familles à la rue. La CREA, on en a déjà parlé pas mal dans ce journal, ça signifie campagne de réquisition, d'entraide et d'autogestion. C'est un groupe de gens qui, en gros, ouvrent des maisons collectives pour et avec des personnes qui n'en ont pas. Du coup, 21 avril, officialisation des maisons. Malheureusement, à cause de l'arrivée des proprios et de la police, les nouvelles nouveaux habitants ont décidé de quitter les lieux. Du coup, face à une espèce de chaîne de solidarité pour aider au déménagement, l'arsenal policier s'est déployé et a été largement disproportionné, puisqu'il était constitué de 9 quarts de CRS, de la BAC, plus des fameux renseignements généraux. En début de soirée, les militants et militantes sont partis chercher des voitures pour poursuivre le déménagement des baraques, et ils ont été tout simplement attaqués par la BAC, à quelques mètres des maisons. Il y a eu plusieurs arrestations, une solidarité s'est formée pour tenter de comprendre ces arrestations arbitraires. La BAC, en signe de tentative de négociation, a sorti les matraques, les gaz lacrymo et un flashball nommé LBD 40 mm. Il y a une militante qui a demandé du coup aux flics qui portaient cette arme d'arrêter de viser la tête car ça pouvait être dangereux. Une militante un peu lucide comme ça, mais ça n'a pas empêché le policier de maintenir l'arme à hauteur de visage. La tension est montée d'un coup lorsqu'il y a des flics qui ont fait usage de leur matraque, faisant au passage tomber l'arme par terre. Il y a eu ensuite toute une espèce de truc, il y a eu lancé de grenades assourdissantes, enfin ils ont sorti un peu le grand jeu. Finalement les militants et militantes ont reculé, tenté de se protéger, parce qu'ils étaient en train de se faire défoncer tout simplement. Mais ils se sont retrouvés piégés entre deux lignes, de la CRS d'un côté et de la BAC de l'autre. Il y a plusieurs personnes qui ont été matraquées, menottées au sol, un appareil photo d'une militante qui a été arrachée de ses mains, jetée au sol et piétinée, complètement écrasée par la BAC afin de détruire des preuves de violence. Et finalement, il y a un policier qui a demandé à un militant d'évacuer les lieux, mais en fait, c'était plutôt un prétexte pour qu'il se retourne et qu'il lui foute un gros coup de tonfa. Mais du coup, c'est pendant qu'il évacuait cette personne que la personne en question a été shootée au visage par cette fameuse balle non létale, comme ils disent. Il s'est bien entendu effondré, il a été secouru par ses potes. Les flics ont bloqué l'accès au secours, puisqu'ils étaient vraiment de bonne humeur. Et finalement, ce sont des personnes du voisinage qui ont été choquées par ce qui était en train de se passer, qui se sont interposées et qui ont permis l'évacuation de la personne aux urgences. Du coup, la personne en question a été touchée en pleine face. Il y a plus de la moitié de ses os de son visage qui ont tout simplement explosé. Sont les médecins à quelques centimètres près, du coup, les os du crâne seraient rentrés dans le cerveau et là, je pense qu'il serait mort. En ce qui concerne son œil, ça semble à peu près en bonne voie qu'il le perde pas, mais il faut attendre quand même plusieurs jours pour avoir un avis définitif. On rappelle que, du coup, ça ressemble exactement à ce qui s'était passé à l'ouverture de la clinique à Montreuil il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça, où il y avait un manifestant qui, lui, avait perdu son œil. Et voilà, on rappelle aussi que le flashball, comme chacun et chacune sait, c'est vraiment pas du tout dangereux.
Et même plus récemment, pendant les manifs contre l'aéroport de Notre-Dame-de-Lande, il y a eu une autre personne qui a perdu un œil.
C'est vrai, à Nantes, ouais.
En se prenant un tir de flashball.
Et oui, et ben, des flics violents, il y en a un peu partout. Et on part au Brésil. Émeute à Copacabana, mort d'un habitant. En fait, on va voir de plusieurs habitants d'une favela. Donc, au moins une personne est morte au cours de violentes émeutes qui ont éclaté hier soir à Rio, dans une favela du quartier de Copacabana. Selon le secrétariat municipal à la santé, un homme d'environ 30 ans a été tué d'une balle dans la tête. Son identité n'a pas été révélée. L'émeute avait été déclenchée par la découverte dans une crèche de la favela du corps d'un danseur et DJ qui était un peu fameux dans le coin, là, qui s'appelait Douglas Rafael da Silva Pereira. Je ne sais pas si je prononce bien parce que le portugais, je ne connais pas. En tout cas, il avait 25 ans. Et en tout cas, ce que racontent ses amis, c'est que lundi soir, il s'est retrouvé au milieu d'une fusillade entre flics et trafiquants de drogue. Il a sauté par-dessus un mur pour se réfugier dans la crèche. Et là, il est tombé sur d'autres flics de l'unité de police pacificatrice. Et ouais, il s'appelle comme ça.
Ça fait rêver.
L'ont battu à mort à ce moment-là. Alors, c'est cette fameuse unité de police pacificatrice, c'est un truc un peu nouveau au Brésil, ça date de décembre 2009, et ils ont été implantés dans les favelas, et c'était surtout pour sécuriser, comme ils disent, la ville pour la Coupe du Monde de foot qui va se passer du 12 juin prochain au 13 juillet. Et bon, alors par exemple, dans les articles sur ces émeutes là, ça parle de la Coupe du Monde à peu près à chaque phrase, même si à chaque fois on comprend pas le lien directement. Mais en tout cas, ça a l'air de vraiment jouer sur l'ambiance au Brésil, cette histoire de Coupe du Monde. En tout cas, voilà, ces unités de police, elles sont installées quand même dans 174 favelas. Et c'était vraiment dans un truc d'essayer de reprendre les favelas aux trafiquants de drogue. Alors dernièrement, la violence est remontée d'un gros cran, donc une série d'attaques contre ces flics de l'UPP, et a priori organisée par le crime organisé, là, comme on l'appelle. Et il semble que ces gens du crime organisé aient été vraiment en perte de vitesse suite à l'installation de ces nouveaux flics, et que là, ils organisent ces attaques pour reprendre leur autorité. Bon, les flics répondent, eux, ils butent du monde aussi. Alors, bon, vous allez dire comme les flics de la terre entière, mais là, quand même, c'est le Brésil, c'est pire. Il faut se rappeler que le Brésil, c'est le pays qui a inventé les escadrons de la mort. C'est en gros des flics qui, la journée, ils faisaient leur service où ils arrêtaient des délinquants, ils leur pétaient la gueule, mais comme on sait, la justice laxiste finissait par relâcher les délinquants. Et donc, les flics, une fois leur service terminé, rentraient chez eux, changeaient d'habit, reprenaient leur flingue et allaient plutôt descendre les délinquants. Et quand on parle de délinquants au Brésil, ils ont quand même beaucoup descendu des délinquants qui avaient entre 9 et 12 ans, par exemple. Rio de Janeiro, comme d'autres villes du Brésil d'ailleurs, est beaucoup ces dernières années secouée par des émeutes et des manifestations qui finissent en affrontement. Bon, samedi, enfin juste pour remonter à samedi dernier, là, un camion, deux bagnoles qui ont été incendiées à Rio, plusieurs dizaines de manifestants qui protestaient déjà contre la mort de deux jeunes gens lors d'interventions policières, autant dire ça n'arrête pas. Et alors quelques jours plus tôt, à Salvador de Bahia, une des villes où il va y avoir la Coupe du Monde, la police a fait grève. Résultat, vague de pillage, 39 meurtres en moins de 48 heures.
Et pour revenir sur la Coupe du Monde, c'est vrai qu'en ce moment, ils ont l'air d'être vraiment au taquet, parce que moi, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, qu'ils ont aussi, au Brésil, introduit un moustique génétiquement modifié qui pourrait endiguer d'autres moustiques qui transmettent des maladies en prévision de la venue de tous les touristes du monde entier. Et du coup, ils mettent des moustiques OGM comme ça pour tuer les autres moustiques aussi en ce moment. Là, c'est ce qu'ils testent.
Tous les footballeurs du monde pouvaient choper le palu, pourtant, ce serait quand même... Tempt not a desperate man with a jewel I take from Peter to go and pay full sunrise by sinning by virtue fool. What have you made if you gain the whole world?
Et on va parler de Manuel Valls maintenant, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. Et du coup, on va revenir un petit peu sur un truc qui, si je ne me trompe pas dans les dates, date de son mandat de ministre de l'Intérieur, puisque le 21 mars 2014, il a adressé aux directeurs généraux de la police nationale et de la gendarmerie, ainsi que au préfet, une instruction sur la réforme du renseignement territorial. Cette réforme, elle vise entre autres certains groupes contestataires animalistes et environnementalistes, entre guillemets, chez qui sont, entre guillemets, observées des pratiques violentes. Alors voilà, en gros, ces groupes font partie des, entre guillemets, principales menaces dirigées contre une démocratie comme la nôtre et contre l'intégrité des institutions qui la font vivre, avec l'ultra-gauche, l'ultra-droite, ou encore, et là je cite à nouveau, certaines minorités radicales qui entendent contester les institutions républicaines. Alors ça, j'imagine que c'est comme ton autre tout à l'heure. Mais alors vraiment, une fois qu'on a...
locaux,
les autres locaux, voilà.
Ah c'est non, un... si, ce qu'il voulait... moi, pour moi, cette phrase, elle veut dire arabe, mais juste, il n'a pas le droit de dire des trucs ethniques.
Minorités radicales qui entendent... ouais, peut-être... peut-être, ou des Roms énervés alors, peut-être. Ok. Quoi qu'il en soit, du coup, il y a assez peu, d'ailleurs, il y a un député PS qui évoquait comme une source d'inquiétude, justement, cette montée de l'écologie radicale, inspirée par des courants, et là je cite, hein, depuis tout à l'heure je cite en fait, hein, je vais arrêter de le dire, inspirée par des courants anglo-saxons comme le Front de Libération des Animaux, le fameux Animal Liberation Front, et le Front pour la Libération de la Terre, le fameux Earth Liberation Front. Elle pourrait également susciter des actions violentes par imitation des autres formes de subversion. Alors là, c'est là que ça devient un peu intéressant. Du coup, les écologistes ne sont plus avec Eva Joly, ils sont en train de trouver d'autres partenaires, visiblement, et je pense que ce qu'il veut dire, c'est que ces partenaires ont des cagoules. On continue un petit peu. Les groupes d'ultra-gauche cherchent désormais à étendre leur discours contestataire à des causes connexes et à établir des liens avec la cause écologique. Précision, action commune lors des sommets mondiaux sur le climat, contre les convois nucléaires, camp de Notre-Dame-des-Landes, action contre la ligne très haute tension Cotentin-Maine. Alors du coup, ce qu'ils voient, eux, c'est pas du tout que c'est des gens qui viennent parce qu'ils sont contre ce qui se passe, c'est des gens de l'ultra-gauche qui viennent pour draguer les écologistes, qui sont eux les vraies personnes qui sont censées s'occuper de ça, puisque c'est leur terrain. Voilà. Du coup, pour continuer, le 5 novembre 2012, Valls a ainsi souhaité une coopération internationale plus forte face aux formes de violence provenant de l'ultra-gauche, de mouvements d'anarchistes ou d'autonomes évoquant des groupes violents gravitant autour de projets comme la ligne ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin, par exemple. Alors ça sent pas bon du tout, ce genre de coopération internationale. En bref, tout ça confirme vraiment qu'ils n'y comprennent absolument rien, tant le voile de la République leur floute les yeux. Pas même qu'il y a juste une masse de gens plus ou moins connectés, plus ou moins organisés, mais en tout cas c'est pas une conspiration, qui réagit de façon impulsive juste contre des décisions de dirigeants et qui tente de lutter contre la marche du libéralisme. Ils ne semblent même pas comprendre non plus que tous ces fronts font face à une seule et même pensée à combattre, c'est-à-dire la leur, celle qui permet d'étendre des logiques de la bourse, des grands trusts, de la philosophie libérale et de toute la finance, et que du coup ça, tout ça, c'est lutter contre l'industrie agroalimentaire, la pharmaceutique et leurs pratiques, contre les groupes immobiliers, le bitume minien, contre l'embourgeoisement des villes, la précarisation des plus pauvres, c'est quand même un peu la seule alternative qu'il nous reste, c'est lutter contre toute leur logique, parfois même d'ailleurs contre toute logique, mais enfin c'est quand même ça qui permet de dormir le soir. Thank you.
viennent. Ils sont très énervés, ils s'en prennent cette fois à Sony, ce sont les Anonymous.
Leurs armes, les ordinateurs. Leur but, déstabiliser les gouvernements avec le site Wikileaks, vider vos comptes bancaires, paralyser des centrales nucléaires avec des virus. Les pirates.
Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, comment s'en servir, comment maîtriser ces nouveaux outils de communication.
On les dit capables de détruire n'importe quel système informatique. Pourtant, on murmure aussi que ce sont eux qui les ont construits. On les appelle des hackers.
Et bien, on va commencer cette chronique numérique par la police de New York qui se prend des gros râteaux sur Twitter. Alors, la police de New York, autrement appelée NYPD,
NYPD
pour New York Police District, voulait se refaire une petite beauté auprès de ses concitoyens en lançant une campagne sur leur compte Twitter qui propose aux internautes de poster une photo d'eux en compagnie de policiers accompagnée du hashtag #MyNYPD.
Par contre, j'ai vraiment rien compris.
le hashtag, c'est pour préciser, c'est l'espèce de
de
mots-clés, voilà, c'est ça, sur Twitter. Et qu'ensuite, les meilleures photos seront postées sur leur compte Facebook. Bon, bah, sauf qu'ils ont été un peu déçus de leur proposition, car ils s'attendaient à ce que les gens fassent des photos d'eux avec des flics comme ça, grand sourire, machin, main dans la main. Et ben, c'est complètement le contraire qui s'est produit. Bon, les flics de New York sont pas pris des grosses tartes dans la gueule avec des gens qui prennent en photo à côté. C'est pas non plus ça, mais ils se sont retrouvés avec une vague de photos dénonçant les violences policières. Comme par exemple une photo de flic encadrant un mec de 84 ans avec le visage ensanglanté alors que cette personne souhaitait juste traverser le passage piéton. Bon, peut-être qu'il s'est passé 2-3 trucs à côté, mais bon, ça, tout ça ne justifiait pas autant de violence. D'autres flics tirant par les cheveux une meuf à terre, d'autres en train de transporter un manifestant pieds et mains liés, ou encore une autre photo montrant des flics en train d'abattre le chien d'un SDF. Ouais, plusieurs de ces messages sont accompagnés du slogan Stop and Frisk pour dénoncer quoi, Frisk? FIR, personne.
On peut pas regarder avant, ouais. C'est pas bilingue.
En tout cas, c'est le slogan qui est là pour dénoncer les foules humiliantes réservées particulièrement aux jeunes noirs et latino-américains. Pas la peine de préciser qu'aucune de ces photos n'a été rajoutée sur le compte Facebook de la police de New York.
Non, mais l'intérêt des hashtags, des mots-clés justement, c'est que ça devient des liens à partir du moment où il y a un dièse et que donc celui dont eux, ils parlent sur leur Twitter, si on clique sur le lien, on a accès à toutes ces photos, en plus de celles qui sont jolies avec des grands sourires.
Tout à fait. Et ça a aussi d'ailleurs donné des idées à d'autres personnes, notamment à des personnes de Los Angeles qui ont créé My LAPD.
LAPD.
LAPD. Pour Los Angeles Police District, voilà, vous l'aurez compris. Voilà, pour que d'autres personnes puissent poster des photos de violences policières. Alors je sais pas vous, mais en tout cas, moi, ce que je propose, c'est de créer une page Facebook pour le plus gros coup de com raté au monde. Et je pense que pour l'instant, il a la palme.
Alors, l'entreprise hongkongaise NEC a lancé cette semaine un nouveau système de reconnaissance faciale qui est un logiciel qui se branche directement aux caméras de vidéosurveillance et qui est capable de reconnaître les visages des personnes qui passent à proximité. Donc, des logiciels de reconnaissance faciale, il y en a déjà eu. Celui-ci, il est surtout fait pour être utilisé par un grand nombre d'entreprises, même petites, et même par des magasins qui pourraient permettre de baser leur publicité dessus. Donc il peut être utilisable comme sécurité ou en communication. C'est-à-dire que dans un aéroport, par exemple, ou une gare, ou dans la rue, vous pouvez être reconnu. Et le logiciel qui est directement branché au cul de la caméra peut faire remonter une alerte soit à la police, soit au vigile du magasin ou de l'aéroport ou de là où vous vous trouvez, pour dire qu'il y a un individu suspect, donc pour une raison ou une autre, hein, soit parce que vous êtes dans un fichier déjà qui dit que vous êtes suspect, soit parce que vous avez là tout de suite, ou une fois précédente, eu un comportement suspect. Et ça permet aussi de repérer le client qui est quotidien, ou qui est nouveau, qui est un habitué, ou qui louche là tout de suite, ou qui a déjà volé. et de faire remonter toutes ces informations, donc soit au service com, soit au vigile du magasin. Donc ce système, il est branché, c'est là la nouveauté, en 3G ou en Wi-Fi, et il échange des informations avec un cloud, donc un serveur qui est proposé par l'entreprise NEC, toujours, et qui peut permettre d'accéder à vos informations, donc aux informations de reconnaissance faciale que l'entreprise aura déjà rentré dedans. Mais on imagine déjà que plusieurs entreprises peuvent se mettre en lien, ou plusieurs boîtes de sécurité, et reconnaître échanger leur reconnaissance faciale entre elles. Donc une fois que vous êtes grillé dans un magasin ou dans un pays, on peut voir ça aussi, vous pouvez être grillé de partout et l'alerte peut remonter dès que vous entrez dans les lieux.
Mais du coup, si c'est sur un cloud, ça veut quand même dire
que c'est accessible à tout un chacun.
C'est ça, il suffit que ce soit piraté, quoi.
Voilà, comme d'habitude, NEC nous dira que c'est extrêmement sécurisé. Après, on sait que tout système sécurisé a toujours une faille, et donc ces photos qui permettent la reconnaissance faciale, donc qui sont des photos toujours avec plusieurs points de reconnaissance, elles peuvent en effet être prises par des pirates ou par d'autres entreprises qui baseront encore une fois leur sécurité ou leur com sur ces informations. Donc il y a sur internet plusieurs tutoriels pour ne pas être reconnu qui sont basés en général par des coupes de cheveux dans lesquelles vous faites une mèche au milieu de votre visage à peu près qui permet de ne pas reconnaître le point entre vos yeux et votre nez, et donc vous ne pouvez pas être reconnu par la reconnaissance faciale.
En gros, après, quand même, visiblement, sur tout ce qui se passe sur des caméras, si vous portez une fausse barbe, des lunettes de soleil et une casquette, ça se passe pas trop mal. Ils sont quand même un peu dans la merde pour.
Sur les reconnaissances faciales, normalement, non. C'est beaucoup sur les points morphologiques du visage.
Et du coup, ouais, mais le menton, tout ça, en fait, du coup, la fausse barbe, il y a plein de points qui sont un peu.
Et après, le problème de ces trucs-là. Tout à fait, mais le problème de ces trucs-là, c'est que c'est enlevable et c'est repérable. L'idée des tutoriels qui sont en ligne, c'est justement de faire comme si vous étiez juste normalement dans la vie, mais que ça permet de ne pas reconnaître ces points-là.
Alors, vous connaissez peut-être ce que sont les cheat codes. Les cheat codes, ce sont ces astuces qu'on utilise dans les jeux vidéo pour avoir plus de vie ou plein d'armes ou encore plein d'argent. Ça se présente souvent sur un truc comme ça, genre vous devez cliquer sur haut, bas, gauche, droite, bas, bas, rond, carré, triangle. Et là, paf, vous étiez sur le point de mourir et vous vous retrouvez avec 100% de niveau de vie. Et ben voilà, ça existe aussi dans la vraie vie. Bon, alors pas pour récupérer vos points de vie, faites pas n'importe quoi, n'éteignez pas la radio tout de suite. Mais pour la thune, ça peut marcher en tout cas. C'est en tout cas ce qu'a découvert un hacker allemand, et il a découvert ça, cette faille, sur des machines à sous, qui avec une très simple combinaison de touches, en gros il suffisait d'appuyer sur quelques touches et de maintenir son doigt sur rembourser, il arrivait à avoir un jackpot à tous les coups. Pas mal quand même.
Yeah.
Et en plus, comme c'était un type vraiment cool, il a partagé sa précieuse découverte sur Internet. Et au total, 100 000 machines ont été pillées pour un total de 10 millions d'euros.
Yeah.
Alors c'était des machines, je dis c'était parce que j'imagine qu'ils ont dû corriger la faille, hein, mais peut-être qui était.
T'as pas essayé direct.
Non, bah non, bah déjà, putain, faut pouvoir rentrer dans un casino quand même.
Ah, mais c'était pas des machines en ligne.
Non, c'était okay. Des vraies machines à sous dans des casinos physiques et tout. Et du coup, et voilà, donc c'est une seule marque de machine à sous qui avait ce défaut là. À ce qui paraît, la firme était au courant du bug mais l'avait pas corrigé. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les joueurs ne pourront pas être poursuivis pour avoir exploité ce bug. Du coup, en tout cas, si vous nous écoutez et que vous avez fait cette astuce, c'est bon, vous pouvez dépenser votre argent tranquille et tout, il vous sera pas réclamé. Par contre, ce qu'on imagine assez bien, c'est que les casinos vont réclamer eux l'argent aux constructeurs de machines à sous.
Alors, le PDG d'Orange a déclaré aujourd'hui au Monde qu'il ignorait que ses employés livraient les données confidentielles de ses clients au service de l'État. Bon, soit. Non mais soit.
Croyons-le, disons.
Voilà, le personnel gérant ses interventions ne serait pas tenu de lui en référer. Bon, ok, le pauvre, personne ne lui dit rien, chouchou. Il est PDG d'une boîte où tout le monde se suicide. On se dit, il a qu'à faire pareil si ça lui fait plaisir. Mais en tout cas, soit, il ne le sait pas, ce qui est quand même un peu inquiétant pour nous. Mais ce qui est bien pire, c'est que dans le même article, en fait, on apprend que par un fonctionnaire au plus haut niveau de l'État, donc, qui ne donne pas son nom, bien sûr, que à ce niveau-là, c'est sous
Manuel
leur radar.
Valls.
Manuel Valls, à mon avis, vu ce qu'il dit. Il dit, à ce niveau-là, c'est sous nos radars, les services disposent d'une autonomie en termes de stratégie. Donc, en gros, ce qu'il nous dit, c'est que toutes les données personnelles qui sont prises par, à Orange, mais à tous les autres, hein, on se leurre pas du tout là-dessus, que ce soit aux fournisseurs d'accès à Internet, aux fournisseurs de téléphonie et à tous ces trucs-là, toutes les données qui sont prises, on ne sait pas ce qu'ils en font. Même les fonctionnaires au plus haut niveau de l'État, on ne sait pas, ne savent pas ce qui en est fait, soi-disant. Et la police peut gérer elle-même ce qu'elle veut en faire, si elle veut les partager avec d'autres pays, si elle veut les utiliser dans des enquêtes ou non, et elle n'a à en référer à personne.
Mais par rapport à Orange, il n'y avait pas eu un truc il n'y a pas longtemps qui était sorti comme quoi les flics avaient directement un service à eux dans la société Orange, où eux ils captaient directement toutes les...
C'est ce service-là que Stéphane Richard, le PDG d'Orange, ignore. Il ne connaissait pas son existence apparemment. Donc pendant qu'on était...
Il y avait des types dans un bureau, ils ne savaient pas ce qu'ils foutaient là.
Ils payaient, hein, mais ils ne savaient pas ce qu'ils foutaient là. Et alors pendant que nous, on s'inquiétait tous de la NSA qui nous surveille, blabla, de loin, mais bon, c'était quand même un peu loin, et puis c'était en anglais, on se disait, si ça se trouve, si on échange des mails en français, ils ne comprennent rien. Et qu'on était bien contents, on rigolait bien, parce que c'était Sarkozy qui était sur écoute pour l'instant. Et ben maintenant, on sait que de toute façon, toutes les données récupérées par l'État français lui-même sont échangées. On ne sait pas trop avec qui, on ne sait pas trop comment, mais ça n'inquiète personne.
Le 9 mai, c'est un concert, c'est du son contre la prison, à Ursa Minor, à Saint-Étienne.
Ce jour-là, le 9 mai, c'est un concert de rap avec Tornade, Billy Breloque, Dialectique Musique.
Le 9 mai, c'est pour l'intérieur, c'est pour tout le monde, c'est de 21h à minuit, en direct sur ta radio locale, sur plein d'autres en France, en Belgique.
Du son contre la prison, c'est un concert, mais pas que. C'est aussi l'occasion de ramener la question carcérale sur le devant de la scène.
De donner un avis de l'intérieur, un avis de ce qu'on vit, de ce qu'on a vécu, de ce que nos proches vivent. Pas ceux des politicards, pas ceux des matons. Alors si vous vous reconnaissez, si vous avez envie qu'on parle de votre prison, de vos galères, de vos problèmes, faire un peu ressentir ce qui se passe dedans, ce qui se passe dans une cellule, ce qui se passe quand la porte elle se ferme, vos revendications, vos combats, vous avez la possibilité.
Ce sera retransmis sur plus de 20 radios. Alors pour que vos textes soient lus pendant la soirée, n'hésitez pas à nous les envoyer à cette adresse. L'envolée chez CSA La Gueule Noire,
16 rue du Mont,
42100 Saint-Étienne.
Rien que ça, écrit sur une feuille en papier. Rien que ça pour pouvoir s'évader. Rien que ça. Et toi, dis-moi comment tu fais.
Du son contre la prison, c'est pour tout le monde, c'est pour parler, c'est pour qu'on sache, c'est pour que ce soit plus fermé, c'est pour que les secrets soient levés. Alors on se retrouve sur les ondes le vendredi 9 mai à 21h avec du bon son. Du son contre la prison.
Ça se sache.
Micro. Et oui, voilà, un magnifique enchaînement, car c'est le soir, et le soir, c'est la fatigue. Du coup, on commence ce Faut que ça sache, qui, je vous le rappelle, comme le générique ne le dit pas, est la rubrique qui parle des luttes des migrants et des migrations en tout genre. Et bien, ce Faut que ça sache, on le commence aux États-Unis, ce qui n'est pas très courant dans cette rubrique. Et du coup, on va vous donner des nouvelles du centre de rétention de Tacoma, c'est dans l'état de Washington. Ça se passe dans la matinée du 15 avril. Il y a près de 130 migrants qui ont été expulsés du centre de rétention au nord-ouest de Tacoma sous les yeux de personnes solidaires à l'extérieur du centre. Parmi les personnes expulsées, il y a 5 sans-papiers qui étaient en grève de la faim. De nombreux manifestants et manifestantes se sont enchaînés afin de bloquer les départs d'au moins 5 bus et un fourgon utilitaire de la société Géotransport. Géotransport, je répète, Géotransport. Mais du coup, il y a déjà eu avant une action de blocage qui avait réussi et qui avait vraiment empêché une expulsion. Du coup, là, cette fois, devant le centre de rétention, les expulseurs ont pris beaucoup plus de précautions, et du coup notamment d'avoir des gros bus pour pas faire entraver leur salle de travail. Et quand même, bon, les manifestants ont réussi à entrer en communication, ça a été un peu la seule victoire de l'action, avec les migrants qui étaient à l'intérieur des véhicules pour demander des identités. Il y a plusieurs sans-papiers enfermés en centre de rétention qui sont toujours en lutte à travers les États-Unis contre les expulsions et les conditions à l'intérieur des centres, notamment à Tacoma donc, où de nombreux migrants continuent la grève de la faim entamée depuis plusieurs semaines, tout en étant pour la plupart placés sous assistance médicale par l'administration américaine.
Faut que ça sache.
que ça se sache.
Et on va à Toulouse maintenant. C'est pas vraiment une information que je vais traiter, mais c'est plutôt un texte que je vais lire. Il y a eu un rassemblement pour une personne proche de collectif de sans-papiers qui est en ce moment au centre de rétention de Cornbarieux. Et du coup, il y a un texte qui a été publié sur le site indépendant de Toulouse, dont j'ai encore oublié le nom.
IATA.
IATA, c'est ça. Et c'est de ce texte que j'ai tiré quelques extraits. Nous étions une bonne cinquantaine ce samedi à venir gueuler notre solidarité avec toutes les enfermées ainsi que notre rage face à ces murs et à ces barbelés. Arrivés sur les coups de 11h30 sur les parkings des commerces environnants, on a d'abord eu un léger coup de pression en voyant arriver toutes ces voitures de gendarmes. Après quelques échanges de regards, ils sont venus nous voir et nous dire qu'ils allaient nous escorter car la route est dangereuse et qu'ils feront la circulation pour nous. Ils sont chouettes hein, les gendarmes quand même, ils font bonne. On leur dit qu'on n'a absolument pas besoin de leur présence. Ils repartent. Ils sont vraiment bien élevés. L'idée de ce rassemblement, c'est de faire du bruit, au maximum du possible, de nos cordes vocales et des cailloux contre les poteaux. Un proche y est enfermé, bientôt expulsé de ce pays de merde qu'est la France. On fout le bordel sur les 500 mètres qui nous séparent du CRA. Une fois arrivé, on scande « Liberté pour Nabil, liberté pour tout le monde ». Ou encore « Les frontières y en a marre, la police y en a marre, la préfecture y en a marre, le JLD y en a marre, l'humiliation y en a marre, le racisme y en a marre, le système y en a marre, et y en a marre, et y en a marre ». Plusieurs personnes nous répondent depuis la cour à l'intérieur. Les gens arrivent des différents secteurs. Du coup à Toulouse il y a 3 secteurs, il y a un pour les hommes, et il y a un secteur pour les femmes et enfants. Ils nous disent qu'il y a 2 personnes qui ont fait des malaises et qui risquent de mourir. Aucune info trouvée à ce sujet par la suite. Ça tape de dedans, ça tape de dehors, sur tout ce qui se présente à nous et qui fait du bruit. Les moments de bruit, de cris, de slogans sont entrecoupés de silence. Silence qui manifeste à quel point on se sent impuissant et impuissante face à ces murs et à ces guignols en uniforme. Silence parce qu'on aimerait trouver les paroles justes, les paroles qui auraient le pouvoir de détruire ces avions, ces tribunaux administratifs, ces matons. Silence parce qu'on sait qu'à un moment, on va repartir d'ici et qu'elles et eux vont y rester.
Il faut que ça se sache.
Et on finit ce Canu Info par un petit agenda, car on a un peu de temps. Ça nous amène le vendredi 25, c'est-à-dire vendredi prochain, après-demain, à 20h, à l'atelier des canulars. Il y a un repas de soutien qui est organisé, à des personnes emprisonnées. Ça s'appelle la cantine pour cantiner, c'est a priori le premier de la formule et qui devrait se renouveler. C'est à prix libre, 20h rue Montesquieu au 91,
je crois.
11, je crois, oui, je dirais ça aussi. Et du coup, il paraît que ça va être très très bon. Et en plus, du coup, après ce before, comme on dit dans le monde de la night clubbing, eh bien, vous pourrez directement bouger à Vaise, dans un lieu tenu encore secret, pour un concert de soutien aux inculpés du 15 novembre 2011 à Rome, et en l'occurrence, un concert de punk rock italien, suisse et lyonnais, avec Leisfa, Atrito, Cox et Défaite. C'est toujours à prix libre, et vous trouverez plus d'infos sur rebellion.info. On va ensuite à Saint-Étienne. Et oui, car il y a une manif qui est organisée contre la venue de Le Pen père à Saint-Étienne. Et je vais vous lire le petit tract très très court de présentation de cette manif. À l'occasion des élections municipales, le FN a cessé de répandre son venin sur les plateaux télé et dans les journaux. Opération dédiabolisation, nous dit-on. Mais ne nous laissons pas bluffer, ce parti fascisant n'a toujours défendu que les intérêts de la France d'en haut, tout en bâtissant sa politique sur la haine de l'autre. Dimanche 27 avril, Jean-Marie Le Pen vient à Saint-Étienne déverser ses propos nauséabonds à 2 pas de nos paillassons. Rappelons-le, à lui et à tous ses sous-fifres, du FN comme des groupuscules d'extrême droite, leurs idées n'ont rien à faire ici et seront toujours combattues. Saint-Étienne, de par son histoire, est et restera cosmopolite et populaire, alors face à tous ceux qui voudraient nous diviser, stigmatiser certains d'entre nous, détruire nos vies, nous resterons fiers, unis et solidaires. Du coup, le rendez-vous est à manifester ensemble le samedi 26 avril à 14h30 à la Bourse du Travail. Il paraît que c'est pas tout à fait à Lyon, ce que je suis en train de dire, mais c'est quand même pas très loin. N'hésitez pas à y aller. Vous aurez toutes les infos sur le site stéphanois0.l'autre.net.
Et puis, c'est pas tout de suite, mais quand même l'événement de la radio, le 1er mai, c'est un vendredi et c'est donc pas après-demain. Mais
c'est un jeudi.
C'est un jeudi. Oh merde, pourtant j'avais calculé, parce que...
Bref.
Les gens qui font le pont, ils le savent. Je pense. C'est un jeudi.
Ouais, je te jure, si tu bosserais, tu le saurais.
C'est le lendemain du prochain Canu Info qu'on fera nous, en quelque sorte.
C'est ça.
Et ben voilà, et ben le 1er mai, après la manif syndicale, vous pouvez toujours venir en apportant un petit peu à manger, même beaucoup à manger en réalité, sur la place Saint-Honnay pour partager ce pique-nique avec plein de monde.
Tout à fait. Et quand même pour petite info, parce que la manif aussi c'est un peu important, fait du travail, tout ça. Mais... Et ben c'est bizarre, mais c'est départ 10h30 des Brotos cette année.
Des Brotos.
Eh oui, c'est des Brotos.
Ça veut dire qu'il n'y aura personne en gros. C'est ça. Géographiquement, ça veut dire ça en général. Mais voilà.
Et ben voilà, et ben on va vous laisser avec une petite dizaine de minutes de musique en attendant. Idée Noire, l'émission de la CGA, la coordination des groupes anarchistes.
Merci de nous avoir écoutés.
À la semaine prochaine.